play as time goes by.
Bienvenue dans l'histoire qui raconte notre histoire.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons.
On reste à peu près au même niveau sur l'échelle du dégueu.
C'est la première fois qu'on traite d'atmosphère.
Brisons nos codes, brisons nos idées reçues.
Vers l'infini.
Compteur d'ondes.
À travers le temps et l'espace, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, Des Mesures vous propose de plonger dans la complexité des échelles. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, Théo vous lit la première chronique de Marie-Lou qui vous raconte comment notre cerveau compte, comment il se débrouille pour se représenter les nombres.
Bonjour à tous. Comme vous le savez si vous nous écoutez déjà, les chroniques de Des Mesures abordent des sujets variés, mais qui ont tous un lien avec les échelles de mesure et leurs conséquences. Je souhaiterais aborder avec vous aujourd'hui la manière dont notre cerveau se représente les grandeurs, afin de mieux comprendre les difficultés qui se posent à nous quand on essaie de se représenter l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Selon le dieu des sciences cognitives Stanislas Dehaene, le cerveau humain n'aurait pas un système de traitement des nombres, mais deux. Le premier, que l'on appelle système numéral approximatif, est comme son nom l'indique, plutôt approximatif. C'est lui qui vous permet d'avoir une intuition directe des quantités et qui, par exemple, vous conduisait à prendre le plus gros tas de bonbons sur la table avant même que votre petit frère ou votre petite sœur n'ait eu le temps de dire « Oh !». Ce système ne dépend pas du langage et les bébés possèdent ce sens rudimentaire de la quantité avant de pouvoir parler dès la première année de leur vie. Pour le savoir, on se base sur un principe très connu en psychologie du développement qui est l'attraction pour la nouveauté. En effet, un bébé adore voir de nouvelles choses et les regarde plus longtemps que ce qu'il connaît déjà. Sachant cela, il suffit par exemple de montrer à un bébé un ensemble de 10 points plusieurs fois pour qu'il soit blasé, puis de lui montrer un nouvel ensemble de 20 points et de voir comment il réagit. S'il est subitement plus intéressé, cela suppose qu'il différencie les deux quantités. Et le bébé est tout à fait capable de faire ça, tout comme d'autres espèces animales. On a d'ailleurs remarqué que plus le ratio de la différence entre deux quantités est grand, et plus il est facile de les distinguer. C'est ce qu'on appelle une loi de Weber. Le problème, c'est que ce type de système atteint vite ses limites quand on veut pouvoir discriminer très précisément une quantité. Dans nos sociétés humaines actuelles, avoir une intuition grossière des nombres ne suffit souvent pas. Il faut donc une manière plus précise de les traiter. Il existe en fait un autre système de perception numérique qui repose sur la valeur symbolique que nous attribuons aux nombres. Celui-là dépend du langage et est donc différent selon la manière dont les nombres nous sont enseignés. Une langue peut comporter plus ou moins de mots pour désigner des quantités. Par exemple, un peuple d'Amérique du Sud, les Piraha, utilise trois mots seulement, un, deux et beaucoup. On peut se demander si cela a une influence sur leur capacité de différencier des ensembles comportant plus de trois éléments. Gordon a montré que oui, les gens de ce peuple y arrivaient moins bien que des individus venant d'autres cultures avec un vocabulaire numérique plus riche. Ils avaient cependant toujours cette intuition approximative dont nous venons juste de parler. Cet exemple illustre les liens qui peuvent exister entre le langage et la cognition numérique. On peut donc facilement imaginer que pour pouvoir se représenter de très grandes quantités, par exemple la distance entre les planètes, il faut disposer de termes précis. Ces termes existent dans la communauté scientifique, mais ne sont pas entrés dans le vocabulaire courant. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de téramètres ou de picomètres, ou en tout cas, vous ne les utilisez pas dans vos dîners mondains. Les travaux en psychologie du développement nous montrent que la capacité à avoir une représentation symbolique des nombres s'apprend. Et c'est aussi le cas pour la représentation des quantités infiniment grandes ou infiniment petites. C'est pour cela que le laboratoire Des Mesures propose des initiatives afin que le grand public se familiarise avec les différentes grandeurs qui existent dans l'univers et puisse mieux se le représenter. Enfin, nous venons de voir l'importance du lien entre langage et représentation des nombres. Je voudrais maintenant aborder les relations qui peuvent exister entre représentation numérique et spatiale. Cela peut paraître surprenant au premier regard, mais vous verrez bien vite que les deux sont intimement liés.
This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the war we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the skill and I know at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to that first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do, he will find himself with no show, better play that note you know.
Faisons un petit jeu avant de poursuivre. Fermez les yeux et imaginez dans votre tête les nombres de 1 à 100. Ça y est ? Je suis à peu près sûr que la plupart d'entre vous a imaginé une représentation plus ou moins linéaire, non ? Typiquement, les gens adoptent une représentation sur une ligne, avec les petits nombres d'un côté et les grands nombres de l'autre. Ce type de représentation, que Dehaene, toujours lui, a théorisé sous le terme de « mental number line », est également influencé par des variables culturelles, puisque dans les cultures où le sens d'écriture est de la gauche vers la droite, les petits nombres sont typiquement retrouvés sur la gauche de la ligne et les grands sur la droite. C'est l'inverse dans les cultures où le sens de lecture est différent. Au niveau moteur, on retrouve l'effet de cette organisation, puisque dans les cultures avec un sens de lecture de gauche à droite, les gens répondent plus facilement avec la main gauche pour juger de petits nombres et avec la main droite pour en juger de grands. C'est ce qu'on appelle joliment l'effet SNARC, pour Spatial Numerical Association of Response Code, ou alors Association Numérique Spatiale du Code de Réponse, en français. La Mental Number Line est un phénomène très connu en sciences cognitives et qui illustre bien le lien qui peut exister entre représentation numérique et représentation spatiale. Au niveau cérébral, on a d'ailleurs remarqué que la même région s'active pour des tâches numériques, mais aussi spatiales. Les enfants qui ont des difficultés en mathématiques ont souvent également des difficultés visuo-spatiales. Autre exemple, les patients hémianopsiques, c'est-à-dire qui ne perçoivent plus un côté de leur champ visuel, ont une représentation biaisée des nombres sur leur mental number line. Cependant, les chercheurs se sont demandé quelle est la nature exacte de la mental number line, et notamment si la magnitude était représentée de façon linéaire ou logarithmique. Autrement dit, perçoit-on la même distance entre deux nombres quand la magnitude augmente ? On serait tenté de répondre oui, puisque mathématiquement, c'est la même que ce soit de petits nombres ou des grands. Mais regardons si c'est effectivement le cas. C'est assez facile de le tester. On présente un trait horizontal avec aux extrémités, disons, 0 et 100, et on demande aux gens de placer sur cette ligne différents nombres. On constate que les enfants de moins de 7 ans ont clairement une représentation biaisée en faveur des petits nombres. Ils utilisent beaucoup plus d'espace pour représenter des petits nombres que les grands. Cette représentation logarithmique s'atténue avec l'âge, mais semble être toujours présente à l'âge adulte. Il semblerait donc que l'on ait une représentation plus logarithmique des nombres, avec la distance perçue entre deux nombres diminuant quand la magnitude augmente. Cela expliquerait notre difficulté à imaginer la différence entre 10 puissance 15 et 10 puissance 20, par exemple, et par extension notre difficulté à imaginer les distances infiniment grandes en jeu dans l'espace. On voit donc que la manière dont nous nous représentons les nombres est liée à la langue que nous parlons, et aussi à nos représentations visuo-spatiales. En sachant cela, l'on peut comprendre les difficultés qui peuvent exister quand on essaie de s'imaginer les échelles de mesure. Le fait de représenter spatialement ces échelles peut nous aider, et c'est ce qui explique notre passion pour les frises, par exemple.
C'était Compteur d'ondes. Réagissez sur Facebook et Twitter.
Retrouvez-nous et nos chroniques sur transistor.fr et notre site web desmesures.jimdo.com. Merci de votre écoute et à bientôt.
Compteur d'ondes.